l'appli. Atlantique Mobile, l'appli de Banque Atlantique, intuitive et performante, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, appelez-nous, exprimez-vous, profitez-en, nous sommes vendredi et vous le savez, dans une demi-heure maintenant, vous pourrez commenter l'actualité de votre choix, c'est la libre antenne et ce matin, vous êtes nombreux à nous appeler de Guinée, la Guinée où après avoir été enlevé à son domicile, puis torturé et abandonné par ses ravisseurs, le militant Abdoul Sakho a été retrouvé vivant, mais dans un état critique. Le sujet ne vous laisse pas indifférent. Vous nous appelez également ce matin d'un peu partout du continent africain pour prolonger notre débat d'hier sur la reconfiguration du dispositif militaire français en Afrique après la rétrocession de la base de Port-Boué en Côte d'Ivoire. La publication au Sénégal du rapport de la Cour des comptes n'en finit pas de susciter des réactions. Il faut dire que le rapport est explosif sur la gestion des finances publiques sous l'ancien président Macky Sall. On parlera, si on a le temps évidemment, mais on fera en sorte d'avoir le temps, football, après cette décision de la FIFA de suspendre la Fédération Congolaise de Football. On nous interpelle également sur le phénomène des boulettes pour fesses. Voilà donc un aperçu des 30 prochaines minutes et de la libre antenne surtout. N'oubliez pas évidemment, comme tous les vendredis, le rendez-vous incontournable de Jessica Taïeb. Elle a passé la semaine à scruter les réseaux sociaux et elle viendra nous dire d'ici un petit quart d'heure quel est le sujet qui a fait le buzz sur Instagram, Facebook et autres. Mais d'abord, vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Nous allons commencer avec Edbert. Il est à Parakou, au Bénin. Bonjour Edbert.
Bonjour Juan Gomez, l'animateur fétiche de Appel sur l'actualité, la meilleure émission du RFI.
Oh, merci infiniment. Ça me va droit au cœur. Merci de vos compliments, Edbert. Vous avez des questions sur Israël?
Oui, Juan, j'ai entendu sur RFI que Benjamin Netanyahou va créer une agence spéciale pour organiser le retrait volontaire des Palestiniens de Gaza. Mm-hmm. Alors, j'ai deux questions. La première, sait-on d'ores et déjà les conditions et aménagements de ce plan? La seconde question, vers quel pays les autorités israéliennes souhaitent-elles déplacer les Gazaouis?
Ouais, vous vous rappelez de cette proposition de Donald Trump, le président américain? Il veut transférer une partie des Gazaouis pour prendre le contrôle du territoire palestinien, proposition qui a provoqué un tollé international. Eh bien, Israël a quand même pris des mesures concrètes pour faciliter l'émigration volontaire des Palestiniens de Gaza. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Juan, bonjour Edbert.
Correspondant de RFI à Jérusalem, que sait-on de cette agence?
Mais écoutez, on a parlé d'agence ou de nouvelle administration qui a été créée. Eh bien, ce sont de grands mots. En fait, c'est une nouvelle cellule qui a été mise sur pied au sein même du ministère israélien de la Défense avec des effectifs existants. Et l'objectif, c'est le départ volontaire des habitants de la bande de Gaza, selon l'intitulé formulé par le ministre de la Défense, Israël Katz. Il explique que cette cellule sera chargée des arrangements spéciaux pour les Gazaouis désireux de quitter l'enclave palestinienne par mer, air ou terre, et également d'autres modalités visant à faciliter leur départ. Pour parler simple, il s'agit d'aider financièrement les habitants de la bande de Gaza désireux de quitter l'enclave palestinienne pour se réinstaller ailleurs. Alors, il y a eu une réunion qui a regroupé des représentants de divers ministères au cours de laquelle la mise en place de cette nouvelle unité a été définie et l'ébauche d'un premier plan a été présentée par le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires.
Ouais, Donald Trump propose de transférer les habitants de Gaza vers la Jordanie et l'Égypte. Les deux pays ont catégoriquement rejeté le plan du président américain. La question d'Edbert, sa deuxième question, elle est intéressante. Sait-on vers quel pays les autorités israéliennes envisagent donc de déplacer les Gazaouis?
Eh bien précisément, Edbert, c'est là que le bas blesse. Il faut souligner qu'à ce stade, en tout cas, la destination des éventuels candidats à l'émigration n'a pas été mentionnée. Plusieurs spécialistes ici font remarquer qu'installer des Gazaouis en grand nombre en Jordanie ou en Égypte aurait des conséquences catastrophiques pour ces pays et en fin de compte, également pour Israël. Il y a quelques jours, le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, Un homme d'extrême droite a indiqué que le plan du président américain de déplacement des Gazaouis faisait déjà l'objet de discussions avec les États-Unis pour permettre une mise en œuvre dans les prochaines semaines. En Israël, on souligne aussi que près de 200 000 Gazaouis ont quitté de leur plein gré la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Ils ont même payé de 5 000 à 12 000 dollars chacun pour aller s'installer ailleurs, notamment en Égypte. Mais il faut souligner que le conseiller du président Trump pour le Proche-Orient, Steve Witkoff, a indiqué hier que les propos de Donald Trump avaient été mal interprétés. Pas question, affirme-t-il, d'émigration forcée de populations palestiniennes.
À suivre donc. Edbert, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, merci.
Et bon, c'est normal. Bonne journée à Parakou, où on nous écoute sur les 106.1. Michel Paul, bonne journée à Jérusalem. Merci d'avoir été en direct avec nous. Edbert, ça vous fait un peu loin entre Parakou et Cotonou. Il doit y avoir, pas loin de 500 kilomètres. Si jamais vous êtes motivé, mais très motivé, prenez la voiture ou un bus et rejoignez-nous la semaine prochaine, puisqu'on sera à Cotonou pour une série d'émissions, dont une émission en public que nous enregistrerons jeudi prochain à 10h à l'hôtel Azalaï à l'occasion du 35e anniversaire de la Conférence nationale souveraine du Bénin. C'est un rendez-vous historique, rendez-vous qui a vraiment marqué le pays puisqu'il a permis de jeter les bases de la démocratie, d'instaurer le multipartisme. Ce sera donc l'occasion tous ensemble avec des invités prestigieux de retracer le chemin parcouru ces 35 dernières années. C'est Appel sur l'actualité, il est 9h17 à Paris. Vous nous suivez à la radio et en vidéo sur YouTube. On a des questions sur la Corée du Nord. Bonjour. Charmoc, bonjour.
Bonjour Juan Gomez.
Vous êtes au Congo-Brazzaville. Quelles sont vos questions, Charmoc?
Oui, Juan. Pour la première fois depuis la pandémie de Covid-19, les touristes occidentaux sont à nouveau les bienvenus en Corée du Nord. Mm-hmm. Pourquoi les autorités nord-coréennes ont-elles attendu si longtemps avant de rouvrir leurs frontières?
Ah, 5 ans, effectivement. Nicolas Roca, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Charmoc.
Journaliste au service international de RFI. Je rappelle que la Corée du Nord a été le premier pays à fermer ses frontières au moment de la pandémie de Covid-19. Et il est donc le dernier à les rouvrir. Faut quand même nuancer la décision de Pyongyang.
Exactement, c'est qu'une zone économique spéciale, la zone économique spéciale de Rason, qui est à la frontière entre la Russie, la Chine et la Corée du Nord, qui est ouverte au tourisme. C'est un lieu qui est prévu pour accueillir des touristes étrangers. Il n'y a pour l'instant que cette ville qui est ouverte aux touristes. Et il faut préciser qu'avant, il y avait déjà les Russes qui étaient admis depuis à peu près un an. Mmh. Mais pareil, dans des lieux très précis. Et ce n'est pas toute la Corée du Nord qui est de nouveau ouverte aux touristes comme avant la pandémie.
Avant la pandémie, le tourisme était quand même limité. Il y avait majoritairement des Chinois.
Majoritairement des Chinois, oui. Mais aussi quelques milliers d'Occidentaux ou de Russes. Mais en effet, la plus grande des cohortes, c'était largement des Chinois. Et alors, le tourisme en Corée du Nord, il faut quand même le préciser, on n'est pas libre complètement de ces mouvements, on y va en groupe, les lieux auxquels on a accès sont très contrôlés, voilà. Donc, c'est pas du tourisme comme n'importe où ailleurs.
Et plusieurs passeports sont interdits.
Alors, au moins 3 pour l'instant, d'après les agences de voyage, en tout cas, pas les Japonais, les Sud-Coréens et les Américains.
D'accord. Et si certains de nos auditeurs sur le continent africain souhaitent visiter la Corée du Nord, c'est possible?
Alors c'est tout à fait possible. Moi j'ai discuté là ce matin avec le responsable d'un des tours opérateurs qui me disait que oui, il avait déjà emmené par exemple des Camerounais en voyage en Corée du Nord par le passé. Le seul problème, c'est qu'il faut vérifier quels sont les accords avec la Chine. Parce que le point d'entrée, c'est la Chine. Avant de se rendre en Corée du Nord, il faut passer par Pékin, donc avoir un visa qui nous permet de rentrer et de sortir de Chine. Donc là, ça dépend, c'est au cas par cas selon les pays. Et une fois qu'on est en Chine, et ben là, on peut prendre l'avion directement pour Rason.
Rason, voilà, cette zone économique spéciale, proche des frontières russes et chinoises. Pourquoi a-t-il fallu attendre 5 ans pour que les autorités rouvrent leurs frontières?
Alors, il y a une logique sanitaire, c'est vrai, le système sanitaire nord-coréen n'est pas préparé face à une pandémie. D'ailleurs, quand le virus est enfin rentré au bout de plusieurs années, ou du moins quand les autorités ont reconnu les conséquences, on a du mal à les jauger, mais elles ont dû être vraiment désastreuse, parce que à part à Pyongyang où il y a des ressources sanitaires correctes, ailleurs c'est très compliqué. Donc il y a cette logique là, puis il y a une logique géopolitique. Si les Russes ont été les premiers à pouvoir rentrer, c'est parce que la Corée du Nord a effectué un vrai pivot après l'échec des discussions avec Donald Trump. Et la Corée du Sud, Kim Jong-un a effectué un vrai tournant, il s'est rapproché de la Russie, de Vladimir Poutine, on le sait, il y a des Nord-Coréens qui se battent actuellement dans la zone de Koursk contre les troupes ukrainiennes. Et donc l'idée, c'était de montrer en fait que voilà, la Corée du Nord Nord maintenant a un allié principal, c'est la Russie. La preuve en est, les Russes ont été autorisés et les Chinois sont en train de re-rentrer de nouveau au compte-gouttes en même temps que les Occidentaux et ceux qui viennent d'autres
vous
pays.
Vous dites au compte-gouttes comme si la Corée du Nord finalement n'avait pas besoin de cette manne que pourrait représenter le tourisme.
Moins qu'avant, en tout cas, c'est vrai que depuis 2015-2017, elle a diversifié ses sources de revenus. Alors c'est une économie qui est très sanctionnée, hein, la Corée du Nord, elle ne peut pas faire du commerce comme elle l'entend, mais par exemple, elle l'a diversifié grâce à des hackers qui volent des crypto-monnaies. Ça représente, selon les Nations Unies, 3 milliards de dollars entre 2017 et 2023, ce qui est très important pour la Corée du Nord. On a du mal, encore une fois, à connaître les chiffres du PIB, mais on l'estime à 30 milliards de dollars annuels. Donc vous comprenez que c'est une manne financière importante. Donc la Corée du Nord a moins besoin du tourisme. C'est plus une vitrine pour son pays, plus qu'une vraie source, une source de revenus conséquente.
Allez, Charmoc, a-t-on répondu à vos questions? Êtes-vous satisfait?
C'est parfait, Juan. Merci beaucoup.
Bah, remercie surtout Nicolas Roca, journaliste au service international de RFI et, je le rappelle, ancien correspondant de RFI à Séoul. À bientôt, Nicolas.
Au revoir, Juan. À bientôt.
8h21 en temps universel. 33 9 693 693 70. Et si nous parlions astronomie? Bonjour, Souleymane.
Bonjour, Juan Gomez.
À Tambacounda, au Sénégal.
Oui, département de Kompentoum.
Pardon?
Dans le département de Kompentoum.
Ah oui, effectivement. Parlez un tout petit peu plus fort, qu'on vous entende bien. Quelles sont vos questions, Souleymane?
Donc, permettez-moi de présenter mes condoléances à l'artiste planétaire Youssou N'Dour, au suite de l'appel à Dieu de son père, Hadj Eliman N'Dour.
Très bien. Eh bien, on a également une pensée.
Ok, merci. J'ai entendu parler d'un astéroïde qui a de plus en plus de sens de frapper la Terre en 2030.
Oui.
Si Dieu le veut, bien sûr. Est-ce qu'il y a des moyens de dévier sa trajectoire? Doit-on réellement s'en inquiéter?
Alors, y a-t-il réellement... faut-il s'en inquiéter? Peut-être. En tout cas, on va voir ce que nous dit Patrick Michel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur, et vous avez publié aux éditions d'Il Jacob « À la rencontre des astéroïdes ». Faut-il s'en inquiéter? En tout cas, si on en croit la NASA, le risque que cet astéroïde frappe la Terre est au plus haut niveau jamais enregistré depuis le début de la surveillance des astéroïdes.
Alors ça, c'était avant-hier, mais depuis, nous avons eu des nouvelles observations et la probabilité d'impact c'est drastiquement réduite. On est maintenant à peine à 0,20% de probabilité d'impact. Je dois dire d'ailleurs que ce n'est pas seulement la NASA, c'est l'Agence spatiale européenne aussi. Mmh. Les deux comparent leurs estimations. Et la bonne nouvelle, c'est que grâce à de nouvelles observations qu'on a faites ces derniers jours, eh bien, je pense que maintenant, d'ailleurs, on pensait déjà pouvoir dormir tranquille, mais nos prédictions qui étaient que cette probabilité allait se réduire, voire s'annuler, s'avère vrai, puisque maintenant, on n'a plus aucune raison de s'inquiéter.
On en est sûr, donc il n'y a pas de raison que cet astéroïde revienne, on va dire, sur ses traces et se dirige droit vers nous.
Alors, il reviendra sur ses traces. Là, il va nous quitter en avril. Il est en train de s'éloigner, en fait. Il va retourner dans la ceinture des astéroïdes entre Mars et Jupiter pour revenir vers nous en juin 2028 et puis revenir à nouveau à 2032. Et c'est pour la rencontre en 2032 qu'on avait cette incertitude. Mmh. On est même monté à 3% de probabilité. Et puis, fort du suivi de cet objet par les observations, d'où l'importance de l'observer, eh bien, on a pu revoir les estimations. Et là, la zone d'incertitude où il pourrait passer en 2032 a toujours la Terre à l'intérieur, mais pour 0,28%. Mais on voit qu'elle est en train de s'éloigner. Donc, je pense que... Ouais. D'ici quelques jours, ça sera réduit à zéro.
Voilà donc des nouvelles rassurantes, Patrick Michel. Si jamais cet astéroïde avait suivi donc sa voie et frappait la Terre, est-ce qu'il y avait un moyen de dévier sa trajectoire?
Alors c'est d'ailleurs pour ça que c'était important pour nous de mettre un seuil bas, quand même bas, à 1% pour commencer à notifier, pour justement s'y prendre en amont. Et si la probabilité se maintenait, alors effectivement, une solution serait de lancer une mission pour tenter de le dévier, comme cela a été fait avec la mission DART de la NASA et la mission ERA de l'Agence spatiale européenne, qui consistait à envoyer une sonde, hein, un satellite avec ses panneaux solaires et tout, à 24 000 km/h dans l'astéroïde pour taper dedans. Allez. Et le dévier de sa trajectoire. D'accord. Donc ça, c'est la solution qu'on aurait éventuellement pu mettre en place et qui a été testé et qui a réussi lors du test que nous avons fait avec la mission DART de la NASA.
Merci Patrick Michel d'avoir pris quelques instants pour nous répondre. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS et je renvoie les auditeurs à votre dernière publication, à la rencontre des astéroïdes. C'est aux éditions Odile Jacob. Souleymane, bonne journée à Tambacounda. Il est 8h et bientôt 26 minutes en temps universel. Dans un petit quart d'heure maintenant, la libre antenne, vos réactions sur l'actualité de votre choix et peut-être aurez-vous envie de réagir au sujet qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, un œil sur les réseaux. Bonjour Jessica Taïeb.
Bonjour Juan.
Vous avez scruté, comme toutes les semaines, TikTok, X, Instagram, Facebook, et j'en oublie bien évidemment. Et cette semaine, vous avez repéré une vidéo choquante, vidéo qui a énormément circulé sur les réseaux, surtout au Tchad, de très nombreux partages et surtout des dizaines de milliers de réactions.
La scène se déroule dans le quartier rue de 50 mètres à N'Djamena. Sur ces images, on voit un homme en train de battre une femme sans défense avec un bâton. La victime est à même le sol, hein, sur le trottoir. Son agresseur est au-dessus d'elle. Il la frappe également à plusieurs reprises avec ses poings et ses genoux. Et la vidéo est filmée par une personne qui se trouve visiblement dans un appartement donnant directement sur la rue. Alors comme souvent hein, dans l'emballement des réseaux sociaux, c'est difficile de savoir qui a posté en premier la vidéo. Ce que l'on sait en tout cas pour le moment, c'est que la police a été saisie du dossier, mais l'agresseur, lui, est toujours en fuite.
Et forcément, cette vidéo a suscité une vague d'émotions sur les réseaux sociaux, d'autant que ces dernières semaines, les cas de violences faites aux femmes se sont multipliés au Tchad.
Mais oui, plus de 1000 commentaires sous des publications Facebook et autant de partages. Les internautes n'ont pas caché leur colère. Je vous lis quelques commentaires. C'est choquant, révoltant et cruel. En fait, les mots me manquent pour faire comprendre à cette personne qu'il porte la honte à tous les hommes tchadiens. Et celui-ci qui saisit l'occasion pour partager un conseil. Un homme qui te frappe une fois te frappera toujours. Mes sœurs, fuyez ce genre d'homme, quel que soit le luxe dans lequel ils vous font vivre. Et certains pensent déjà à la justice et aux sanctions. Cet acte est inacceptable et doit être condamné avec la plus grande fermeté. J'espère que les autorités prendront toutes les mesures nécessaires.
Ouais, les autorités qui ont d'ailleurs vivement réagi par la voix d'Amina Priscille Longo, la ministre tchadienne de la femme, elle a partagé la vidéo sur sa page Facebook tout en exprimant son émoi et sa colère.
Et oui, je cite les propos de la ministre. C'est horrible cette cruauté que je condamne fermement. Le plus écœurant est la lâcheté de celui qui filme. Filmer pour montrer, est-il mieux qu'agir pour sauver? En pareilles circonstances, sachons poser l'acte utile. Nos services ont besoin d'informations complémentaires pour assister en urgence la victime. Pour le reste, la police s'en occupe. Courage à toutes ces femmes qui, dans le silence, vivent l'enfer. Brisez le silence et sauvez votre vie. Alors autant vous dire que ce post a suscité des milliers de commentaires. Je vous partage quelques réactions. Oui. La personne qui filme sans intervenir doit être poursuivie pour non-assistance à personne en danger. C'est un acte odieux qu'il faut condamner. Mais certains ne partagent pas ce point de vue autour de l'auteur de la vidéo. Je cite « Il ne faut pas condamner trop vite la personne qui a filmé. Peut-être qu'elle était dans l'impossibilité d'agir. » C'est parce qu'elle a filmé que nous sommes informés. Et je termine, Juan, avec cet internaute qui interpelle directement la ministre de la Femme. Madame la ministre, je vous prie de prendre vos responsabilités. Nous sommes fatigués de voir ces scènes de violence se répéter chaque jour. À quoi sert d'occuper cette fonction si vous êtes dépassée par la situation? S'il vous plaît, réveillez-vous.
Voilà, vous êtes au Tchad, vous avez forcément envie de prendre la parole. N'hésitez pas, vous pourrez vous exprimer sur ce sujet, sur la multiplication des cas de viol et d'agression de femmes dans votre pays. D'ailleurs, la Ligue tchadienne des droits de la femme est montée au créneau pour exiger des autorités des mesures concrètes. Tolérance zéro pour les criminels. Du coup, le mois dernier, le gouvernement a signé une ordonnance qui durcit la loi jusqu'à 15 ans de prison contre les violeurs et des mécanismes pour protéger les femmes du harcèlement sexuel au travail ont également été annoncés. Merci beaucoup Jessica Taïeb. Un œil sur les réseaux sociaux, c'est à réécouter sans modération sur l'application RFI Pure Radio, mais aussi sur notre chaîne RFI Appel sur l'actualité, la chaîne WhatsApp. Vous n'êtes pas abonné? Eh bien, qu'attendez-vous? Faites-le dès maintenant, on vous attend, vous êtes déjà 1 500 000, soyons plus nombreux. C'est un moyen de rester en contact, évidemment, 24 heures sur 24, la chaîne WhatsApp RFI Appel sur l'actualité. Il est 9h30 à Paris, reste avec nous.